Père céleste, je te prie d'être dans ce que je vais dire, d'ouvrir nos oreilles et de reconnaître que tu as tout préparé, tu as vraiment tout préparé. Tu es tellement grand Dieu, mais tu t'abaisses tellement loin, tellement près de nous, et merci, merci pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Donc, à mi-août, j'avais fait une introduction sur le thème de la connaissance de Dieu. Et je m'étais arrêté au milieu, j'avais dit, si vous voulez entendre la suite, il faut revenir. Puis, vous revoilà donc, alors ça sera la suite. Peut-être je vais résumer ce que j'ai dit à la première partie. Donc, j'ai dit, ça m'avait touché ce verset il y a quelques mois déjà. Jésus, dans Jean 17, il a fait une prière, Jésus qui est Dieu, il a fait une prière à son Père qu'on appelle la prière sacerdotale. Et je retiens pas beaucoup de versets par cœur, je suis obligé de lire. Mais celui-là, il m'est resté. Et il a dit, Jésus a dit à son Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, ça fait partie du thème, la connaissance de Dieu. Et on avait dit que c'est indéniable que nous désirons connaître Dieu. Il y a deux faits. D'abord, même si nous le désirons, il y a une part d'incompréhensibilité de Dieu. Et ça, c'était dans Job 7, Ésaïe 48. Et on va pas les lire. Et tout de même, nous pouvons connaître Dieu. Ça, c'est Jean 14, 7, et puis celui que je viens de citer, et 1 Jean 5, 20. Et seulement la parole écrite de Dieu est là, je souligne, c'est un pléonasme, la vraie vérité. La parole de Dieu, c'est la vraie vérité. Et la révélation initiale de la notion Dieu a été faite aux Juifs d'abord. Mais le judaïsme n'est plus la révélation complète. C'est le christianisme qu'il est, parce que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. L'incarnation de Christ, Dieu s'est incarné pour se révéler et peu avant sa mort, il a promis le Saint-Esprit qui est venu après son ascension. Et le Saint-Esprit, il ouvre les Écritures aux croyants pour mieux connaître Dieu. Le contenu de la connaissance de Dieu, elle se base sur des faits. Mais si c'est seulement basé sur les faits, ah, je connais ce que dit la Bible de lui, ce qu'il a fait faire, ce qui est arrivé, c'est limitatif. Mais comme on a dit, parce qu'on connaît Jésus, on l'a pris dans notre cœur, on a une connaissance de la personne de Dieu. Et si je dis juste, oui, je crois, t'es mort à la croix, t'as été enterré, t'es ressuscité, ça me suffit. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme terme? C'est ça, limitatif, ouais. C'est limitatif. Il faut les deux. Il faut commencer par connaître cette personne dans notre cœur pour chercher qu'est-ce qu'il a fait, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il veut nous transmettre. C'est une personne qui où il y a des faits qui sont racontés sur lui, mais il est aussi une personne. C'est, je sens qu'il m'aime. Vous sentez qu'il vous aime. Vous sentez qu'il est présent. Vous sentez qu'il probablement il est dans ce que je vais dire. Hein. C'est pas moi, c'est lui qui veut parler. Et la relation personnelle part donc d'un minimum de la personne. Et ensuite, on a envie d'apprendre des faits sur cette personne. Chaque croyant ou étudiant en théologie devrait entrer dans une sorte de cycle de mieux connaître Dieu. Et la révélation de Dieu est progressive et vous pouvez comparer ce qui est incomplet du judaïsme à ce qui est venu après devenu clair dans le christianisme. C'est-à-dire, depuis le christianisme, on est clairement, on parle de la Trinité, on parle de la Christologie, c'est l'étude de Christ, on parle du Saint-Esprit, on peut prier au Saint-Esprit. Comment on peut prier à Jésus et à Dieu, mais on prie pas à son voisin, hein? Et la résurrection, c'est clair, le chapitre 1 Corinthiens 15 est très clair sur la résurrection. Et l'eschatologie, c'est les temps futurs, ce qui va se passer encore pour aller au ciel. Alors maintenant, je passe à la deuxième moitié. Je pense que je vais quand même faire plus de 20 minutes en tout, hein, Christian. Parce qu'on avait peur de ne pas remplir le temps prévu. Mais je pense que je vais déborder. Ça vous gêne? Non? D'accord. Ok. Alors, les buts de la connaissance de Dieu. Je vais dire deux fois. Conduire les gens à posséder la vie éternelle. Conduire les gens à posséder la vie éternelle. Ça, c'est de nouveau ce fameux verset qui m'avait touché. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Il y a un autre verset, 1 Timothée 2, 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu est la vérité. Et on sait que nous avons le libre arbitre, nous pouvons refuser et dire c'est pas vrai. Moi je connais des gens dans la famille, enfin ils m'ont pas dit directement, mais ils disent que la Bible c'est des fables. Moi je crois pas que c'est des fables. J'espère que vous croyez pas que ce sont des fables. La Bible est la vérité. Elle contient pas la vérité, elle est la vérité. Ensuite, là j'ai subdivisé en A, B, C dans le deuxième but, c'est de favoriser la croissance chrétienne. Nous avons 2 Pierre 3, 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Ensuite, favoriser la croissance chrétienne avec de la connaissance doctrinale. Alors, là, il y a plusieurs versets. Il y a Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, sous-entendu la volonté de Dieu, c'est Jésus qui a dit ça, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Et moi, je comprends sous doctrine, c'est quoi penser, quoi faire ou quoi pas faire. La doctrine contient cela. Romains 6, 9, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et dans le même chapitre, Romains 6, 16, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, et grâce à Dieu, plus de pouvoir sur nous, la mort finale, la mort, la seconde mort n'a plus de pouvoir sur nous, c'est formidable ça. Éphésiens 1, 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc ça, c'était favoriser la croissance chrétienne avec de la connaissance doctrinale. Et il y a encore et une conduite de vie avec discernement. Là, il y a un verset en Philippiens 1, 9 à 10. Paul a écrit ça. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Christ, de Christ. Et aussi 2 Pierre 1, 5, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu, à la vertu la science, Darby dit à la vertu la connaissance, donc ça fait partie de la connaissance de Dieu. Et ensuite il y a encore le but de la connaissance de Dieu. En troisièmement, nous avons mettre en garde devant le jugement à venir. Là nous avons des versets. En Osée 4, 6, il parle à son peuple, c'était Israël, mais nous sommes aussi son peuple. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, ça s'adresse à quelqu'un qui veut pas croire. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Alors ça peut nous concerner. Puisque dans Apocalypse, il a dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu le Père. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Hébreux 10, 26 à 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et moi je pense, si j'ai vraiment le désir et que j'aspire à connaître Dieu, tout sera mieux. Si je reste pas minimaliste, faut pas rester minimaliste. Tu dis oui, je crois à Dieu, Jésus t'es mort sur la croix, t'es ressuscité, merci. Si je m'arrête pas à ce minimalisme, je suis beaucoup plus heureux si je n'ai jamais fini d'apprendre sur Dieu et de Dieu. Ensuite, toujours dans les buts de la connaissance de Dieu, c'est susciter la vraie adoration de Dieu. Romains 11, 33 à 36. C'est des versets, ça fait la chair de poule. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est pas le amen final de la prédication, hein, mais c'est le verset. Après, dans la connaissance de Dieu, il y a des conditions initiales, des prérequis. Nous avons d'abord, vous savez que c'est pas nous qui avons par hasard trouvé Dieu, c'est Dieu qui a initié sa propre révélation. C'est lui qui est venu chez moi. Il a toqué à mon cœur. Il a toqué à votre cœur. La révélation, sa révélation, c'est lui qui l'a fait en chacun de nous. Et l'homme ne peut connaître Dieu sans qu'il initie sa révélation. Voilà pourquoi l'homme doit se soumettre à Dieu, qui est l'objet de sa connaissance. C'est la soumission qui nous permet de le connaître mieux, se soumettre à Dieu. Ensuite, dans les prérequis, Dieu, on n'y pense même pas, mais il nous a donné le langage pour communiquer. C'est quand même quelque chose de phénoménal, c'est magnifique, c'est que nous puissions communiquer sans nous toucher, sans faire des gestes, même si peut-être les Italiens, oui, ils parlent avec les mains, ou d'autres pays, mais les Finlandais, ils parlent pas beaucoup, on dit aussi, mais il nous a donné à tous le langage, et il a conçu le langage, il l'a donné au premier homme et sa femme, afin que qu'ils puissent leur communiquer ses instructions. Donc Dieu a donné le langage pour que Adam et Ève et les descendants de Adam et Ève puissent entendre ses instructions. On a versé Genèse 1, 28 à 30, où Dieu les bénit et Dieu leur dit, donc ils parlent, et si on sait parler, on sait comprendre avec les oreilles, la bouche et les oreilles vont un petit peu ensemble pour ça. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, entre parenthèses, le souffle de vie, c'est Dieu qui l'a donné à tout le monde, à nous et aux animaux. Et je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Alors, ça c'est fait, et il a donné les instructions, et afin qu'on puisse communiquer avec Dieu. En Genèse 3, 8, 13, nous avons la scène tellement triste pour nous, hein. Genèse 3, 8 à 13. Alors, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » C'était bon. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Continuer sur les prérequis. Et dans le langage, il a inclus le fait que il a soumis la création à l'homme non déchu, puisqu'il lui a demandé à Adam de nommer les animaux. Mais même après la tour de Babel, les langues servent, ou malgré la tour de Babel, les langues servent toujours comme moyen de communication à tous les niveaux. C'est fou ce qu'on peut faire avec notre langue. Vous savez très bien, il y a quelque part un verset qui dit que la langue peut être très mauvaise. Elle peut bénir, mais aussi maudire. Et vous savez, Babel, il y a eu une multitude de langues qui se sont créées. Et on peut être certain que le Dieu omniscient a fait sa provision du traducteur Google pour toutes les langues pour sa propre révélation à l'homme. Donc, même s'il y a des langues et que c'est plus la première à donner à Adam et Ève, Dieu, il est omniscient et il a la traduction la plus rapide du monde. Voilà. Ensuite, toujours dans les prérequis de la connaissance de Dieu, il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes des êtres rationnels avec une intelligence. Et Dieu n'a pas enlevé l'intelligence de la compréhension des mots, de la logique, des phrases et des paragraphes. Il n'a pas enlevé ça. Le péché n'a enlevé que le fait que la compréhension humaine soit fiable, reste fiable. Et ça, le péché l'a enlevé. Toujours dans les prérequis, Dieu a donné son Saint-Esprit aux croyants. Pour révéler les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses de Dieu. En Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Et 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et même si nous avons le Saint-Esprit dans notre cœur, nous restons nous ne sommes pas infaillibles. Mais le Saint-Esprit nous donne l'habilité à distinguer la vérité et faire la part par rapport à ce qui est faux. 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est lui qui enseigne et qui éclaire la parole. Les œuvres nous donnent la possibilité de connaître et d'obéir aux nombreux commandements dans les Écritures, des commandements qui ont pour but que nous connaissions Dieu. Alors, j'ai toute une série là. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. On l'a déjà lu, celui-là. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous savez, j'ai une pensée par rapport à l'Esprit de Dieu en nous. Et nous sommes un temple. Et des fois, je me dis, c'est comparable dans le désert, le tabernacle. Il y avait des peaux de dauphins qui couvraient ça. C'était en fait pas si beau que ça à la vue. C'est ce que je suis pas si beau que ça à la vue, n'est-ce pas? Mais quel trésor là-dedans. Cette connaissance personnelle de Dieu, du Dieu parfait, qui daigne habiter en moi, qui daigne habiter en vous, dans notre cœur. C'est ça qu'on peut appeler incomparable. Comme par son texte est dit, pour saint, c'est incomparable. C'est saint ce que nous avons en nous. Nous avons l'acompte de la sainteté parfaite en nous. Hein? Voilà. Et 1 Corinthiens 5, 6 aussi, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ça, c'est une allusion au danger du péché. 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Nous sommes propriété de Dieu. Jésus nous a rachetés en envoyant un acompte de paiement dans notre cœur, le Saint-Esprit. Et Jacques 4:4, c'est assez dur comme c'est dit. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. J'en ai terminé, sauf dans la connaissance de Dieu. J'ai pensé à ce verset. Dans le premier psaume, qui commence par le mot « Heureux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Amen.